La plongée sur une longue histoire, ça commençait par une plante de palme et d'un tuba qui n'ont jamais vu la mer et même jamais vu l'eau, je crois bien. Quand j'étais petit, un des premiers livres que j'avais lu, c'est un livre sur Cousteau, Le Monde du Silence. Et ça m'avait tellement plu, j'ai toujours rêvé de faire de la plongée, je voulais faire de la plongée, comme Cousteau. C'était vraiment un des précurseurs de la plongée, il a donné lui aussi à pas mal de gens. Et si bien c'était en 59, l'hiver 59, j'avais 8 ans. C'était en hiver, c'était à l'époque de Noël, donc j'étais malade, je me souviens, j'étais malade, j'étais au lit, j'avais une grosse angine, et je bassinais ma mère pour qu'elle m'achète pour mon cadeau de Noël, je voulais que ce soit des palmes, et une paire de palmes et un tuba. Alors déjà en plein hiver, c'était pas facile à trouver, et à cette époque-là, encore moins. C'était rare. Et ils ont fait tous les magasins de Lyon et de Villeurbanne, parce qu'on est de Villeurbanne, pour trouver une paire de palmes et un tuba, parce qu'ils voulaient voulaient à tout prix ça pour Noël. J'ai eu mon cadeau de Noël, j'étais bien content, mais comme c'était l'hiver, ben, je suis jamais allé à la mer. En plus de ça, dans la famille, on n'avait pas trop les moyens. Et je ne suis jamais allé ni à la mer. Enfin, je suis allé à la mer, mais en colonie de vacances et des choses comme ça. Et donc, et je savais pas nager non plus, donc j'ai jamais utilisé mon matériel. Et les années ont passé. Ce matériel est resté donc à la cave, dans son paquet, bien sagement. Plus tard, donc, la vie, maintenant, je me suis marié, tout ça, j'ai déménagé, j'ai pris mon paquet. Toujours sous le bras avec le reste de mes meubles, et ça m'a suivi jusqu'à très longtemps. Même donc, le dernier déménagement que j'ai fait, où je les ai retrouvés, j'avais déjà 35 ans, donc les années étaient bien passées. Et quand j'ai voulu les voir, elles étaient toutes pourries, toutes desséchées. Ça fait qu'elles ont malheureusement atterri à la poubelle. Elles ont jamais. Ces pannes n'ont jamais servi. Et le tuba non plus. En plus de ça, c'était un tuba avec une boule de ping-pong comme il faisait à l'époque. C'était un truc plutôt pour se noyer qu'autre chose. C'est un truc qui est complètement interdit maintenant par les règles de sécurité. C'était un truc à se noyer, ce machin. Heureusement, je m'en suis jamais servi d'ailleurs. Parce que je crois que c'est ce qui serait arrivé. Et j'ai fait ma première plongée, j'ai réussi à réaliser mon rêve de plongée, j'avais 35 ans, la première fois que j'ai plongé. Depuis donc, j'ai fait pas mal de plongées, j'ai plongé un peu de partout. Et j'ai plongé donc dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, j'ai plongé déjà plusieurs fois en mer Rouge. Bon, je connais très bien la Méditerranée, j'ai fait pas mal de plongées en Méditerranée. Et donc, entre autres, sur l'île du Levant, sur Porquerolles, c'est une réserve qui est magnifique. Il y a également une réserve qui est magnifique, c'est du côté de Banyuls. Donc, il y a des coins qui sont très très jolis en Méditerranée. Et le dernier voyage qu'on a fait, c'est un voyage en Égypte, en mer Rouge. C'est une croisière sur un bateau, un joli bateau, qui est arrêté maintenant. Là, ils ont arrêté parce que c'est un très beau bateau, mais il avait que 5 ans, ce bateau, et malheureusement il n'était pas entretenu. La structure par elle-même était très belle, c'était un bateau magnifique, très bien adapté pour la plongée, mais il était complètement pourri, aucun entretien, c'était rouillé de tous les côtés. C'est dommage parce que c'était vraiment, à l'origine, il devait être vraiment magnifique, ce bateau. Et donc là, on a fait une belle croisière avec un groupe de copains. Donc il y avait celui qu'on appelle le petit nain. C'est une personne qui a déjà une cinquantaine d'années. Il a les cheveux blancs, mais très sympa, très rigolo, très actif. Un ami également qui plonge souvent avec nous. Il est entraîneur de chevaux. Il est là, il a une écurie à. Enfin, il entraîne, c'est pas ses chevaux, il entraîne des chevaux, donc c'est son travail. Il y avait sa femme, sa fille, qui plonge également. Christine ne plonge pas, elle était venue simplement dans cette croisière pour la balade. Entre autres, elle s'est bien embêtée parce que, à part voir la mer, elle a rien vu d'autre. parce que sur un bateau, c'est quand même assez restreint et on peut pas trop se balader. Il n'y a pas de shopping à faire, il n'y a rien à faire. Donc c'était vraiment pas une croisière pour elle. Il y avait un cas spécial du club. On a appris beaucoup de choses sur lui, ça nous a fait rire un peu, mais enfin, il y avait donc ma compagne et moi-même. Et donc l'année passée, on a décidé de faire ce petit groupe-là, donc on était sept, on a décidé de faire cette croisière en mer Rouge. Alors, comme mon premier jour, au départ, on s'est retrouvé donc à Lyon, là, à la gare de la Part-Dieu. On devait monter à Paris pour prendre l'avion. Donc, on se retrouve à Part-Dieu, on a commencé à rigoler un petit peu. On prend le TGV, on atterrit à Paris. Donc, ça a été la galère déjà parce que connaissant pas bien l'aéroport et puis la gare qui arrive sur l'aéroport, c'est déjà pour retrouver ensuite l'embarcadère, on a mis presque 3 heures. Et lorsqu'on est arrivé à l'embarcadère, il y en a un qui dit attention parce que là-bas on va aller dans un pays musulman, ils aiment pas bien l'alcool, ils vendent pas d'alcool, et puis sur le bateau. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a. On a fait un... on a fait, on a pris des munitions pour la route. On est passé dans la boutique Tutu et Fruits et on a commencé à acheter des bouteilles d'alcool parce qu'on savait très bien que là-bas on ne pourrait pas les avoir facilement. Et on a acheté donc deux bouteilles de whisky, une bouteille de rhum. Donc après on a embarqué, on est parti. Arrivé à Hurghada. Eh ben, on est arrivé là-bas, c'était de nuit. On a directement donc quelqu'un qui nous attendait. Alors c'était folklore parce que là-bas, tout le monde parle anglais. Il y en a très peu qui parlent le français. Et moi, je ne parle pas un seul mot d'anglais. Alors déjà pour se retrouver, les gens nous appelaient en anglais, on ne comprenait rien. Donc c'était un petit peu la galère. Heureusement qu'il y avait Francine qui parlait un peu le français, donc l'anglais, donc on a pu se débrouiller comme ça. Donc on a retrouvé le gars qui devait nous emmener vers le lieu de départ. On a tout de suite embarqué sur. C'est le Fortune One, le bateau. On a tout de suite embarqué, donc le soir même, on a embarqué, on a récupéré nos cabines. Donc ça s'est à peu près bien passé. Alors, par contre, une chose qu'on a regrettée, c'est que. Cette croisière-là, on devait partir donc du Hurghada, remonter sur Ras Mohammed, sur l'île de Tiran et redescendre. Manque de chance, chose qui nous est bien énervé dès le départ, et qu'on s'est rendu compte à la fin, c'est qu'on arrivait là-bas, c'était la semaine du Ramadan, la fin du Ramadan. Et les Égyptiens, donc tout le personnel du bateau, ce sont des Égyptiens du Hurghada. Et en guise de croisière, on a fait des allers-retours sur la mer parce que les gens du bateau, ils voulaient systématiquement rentrer tous les soirs chez eux pour faire la fête. Donc la croisière a été assez mouvementée de ce côté-là parce qu'on a fait beaucoup de voyages. On a fait quelques plongées, on est monté jusqu'à Ras Mohammed quand même, mais on n'a pas pu aller jusqu'à Tiran parce que c'était trop loin du Hurghada. Et comme les gars voulaient pas rester en mer, ils voulaient rentrer tous les soirs. Je pense qu'on a bouffé pas mal de mazout pour faire les voyages. Pour rien du tout, on naviguait toute la nuit, pratiquement. Enfin, on naviguait à partir de 18h où la nuit commençait à tomber. Et ils repartaient des lieux de plongée pour rentrer au Hurghada. On passait la nuit dans la baie du Hurghada, eux prenaient les zodiacs, pour aller à quai pour faire la fête avec leur famille. Ils revenaient vers 5-6 heures du matin et on repartait pour aller plonger sur les. On repartait sur le site de plongée après. Donc on a fait pas mal de voyages. Mais enfin, donc, par contre, les plongées qu'on a fait étaient superbes. On a fait pas mal d'épaves. On a été faire un site où il y a les épaves. On a fait entre autres le Genesis Day, le Carnatic. On a fait une qui est le. C'est des noms anglais, j'arrive pas bien à les prononcer ces machins-là. Le Tristel Gorm. C'est un bateau de guerre qui a été coulé donc par les Allemands en 1940. Et il est sympa à faire parce que c'est un transport de matériel. C'est un bateau qui est sur 40 mètres de fond. Environ, enfin, la coque, le sable est à 40 mètres, l'eau du bateau est plus haut, il est sur 30 mètres. Et dans les cales, tout est encore arrimé. On voyait vraiment, il y avait tous les camions, les jeeps, tout ça, c'est tout aligné dans les cales, c'est tout rangé, les unes à côté des autres, bien, bien aligné. Et dans les camions, il y a. À l'intérieur des camions, bon, il optimisait toutes les places, donc sur ce type de transport. Dans les bennes de camions, il y avait toutes les motos qui étaient entassées et tout aligné comme ça. Il y a des centaines de motos sur ce bateau, alignées dans les bennes de camions. Et puis il y avait ils transportaient des bottes. Alors c'était marrant parce qu'on se posait la question, qu'est-ce que c'était que ces bottes? C'est des bottes, on croyait que c'était des bottes, mais en fin de compte c'est pas des bottes, c'est ce qu'ils appellent des surbottes. C'était pour passer à guet certains passages, et c'est des bottes pour mettre par-dessus les chaussures, en fin de compte. Alors quand on voit ces bottes, mais c'est pas possible, ça faisait au moins, elles devaient faire au moins 50 cm de long. En fin de compte, ce sont des grandes bottes qui mettaient par-dessus les rangers. Et pour traverser à guet, donc c'est des surbottes. Alors ça faisait des pieds immenses, la première fois qu'on voit ces bottes, il me dit, attends, mais il faussait du combien, les gars? Il est au moins de 80 là. C'était assez impressionnant. Et c'est après qu'on a eu l'explication, c'est que c'était pas du tout pour mettre simplement avec une paire de chaussettes. Et donc on a fait ces épaves qui sont sympas. Il y en a une qui est. Très très belle affaire. Ça me rappelait un petit peu le film de Luc Besson, Atlantis, un film qui a pas du tout marché, mais enfin qui moi m'a plu énormément plu parce que c'est uniquement sur des poissons. Ça fait un petit peu des ballets de poissons, ce film-là, avec des morceaux de musique classique ou de musique comme ça, et c'est très sympa. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que s'il y en a qui ont vu ce film, on voit à un moment donné un banc de glassfish, c'est des petits poissons assez colorés qui font un espèce de ballet entre l'armature d'une épave, une armature d'épave en bois, où on voit uniquement l'armature, ça fait comme des barres comme ça parallèles, et on est à l'intérieur d'épave et il y a ce banc de poissons qui se balade d'un côté à l'autre de l'épave qui fait comme un balai devant. Comme on est à l'intérieur de l'épave, on voit les rayons du soleil à l'extérieur donc qui traversent. Donc c'est assez lumineux, c'est très coloré et c'est une impression très très sympa, très très jolie. C'est un truc qui m'a énormément marqué. On a fait donc ces épaves-là. Ensuite donc on rentrait tous les soirs à quai. On a fait aussi des très belles plongées sur Ras Mohammed. Où Ras Mohammed, c'est la pointe du Sinaï, c'est sur la pointe du Sinaï, et là c'est des tombants qui tombent assez bas, hein. Il y a plus de 600, même si ça descend plus bas, je crois que ça descend presque à 2000 mètres, mais enfin nous on va pas si loin, on s'est arrêté à 40, ça allait bien. Et donc là on a fait des très très belles plongées parce que ça fait un petit plateau qui est sur 20 mètres de fond. Et ce plateau donc se casse brusquement et c'est une falaise qui descend, une falaise vertigineuse qui descend jusqu'à très profond, je crois que ça descend jusqu'à 2000 mètres. Et là donc en descendant, on voit du gros poisson, des gros bancs de barracuda, des gros bancs des gros poissons, enfin, je ne sais plus exactement tous les poissons qu'on voit, mais enfin, c'est vraiment de gros poissons qu'on voit. On a vu là un petit requin qui se baladait, qui tournait au large, en se mettant dos à la falaise, on regardait au large, on a vu des requins assez loin, qui s'approchaient, mais ils ne s'approchent pas trop à ce moment-là. Par contre, sur le plateau, lorsqu'on est arrivé, là, c'est très coloré, il y a beaucoup de coraux, enfin du corail un peu de toutes les couleurs, c'est magnifique, et beaucoup de poissons, de tous les petits poissons de corail, des petits poissons roux, des poissons clowns, les petits poissons papillons, les chirurgiens, enfin, et puis les perroquets qui sont très colorés, c'est des très jolis poissons. Malheureusement, ils font beaucoup de dégâts parce que c'est des poissons qui mangent le corail et à la longue, ils détruisent pas mal de corail. Et là, on a vu deux superbes tortues qui étaient en train de brouter des algues. On s'est approchés, on les a caressées. C'était vraiment magnifique, une plongée magnifique. Là, sur Ras Mohammed, on a fait deux plongées. On a fait une plongée donc sur ce côté-là, sur sur une partie, et ensuite on est allé sur un autre petit plateau qui est toujours donc collé à la falaise sur le bord. Et là, la première fois qu'on a fait, on est descendu. Quand on est arrivé au fond, on était sur un fond de 30 mètres par là à peu près. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a même trois requins, des requins pointe blanche. Il y en a un qui s'était déjà planqué au fond dessous une patate de corail, et il y en avait deux qui étaient en pleine eau qui naviguaient. Et c'est des requins qui doivent faire 1,20 m, 1,50 m par là. C'est pas agressif du tout. Contrairement à ce qu'on dit, les requins sont pas agressifs, à part quelques-uns, donc les grands blancs, mais qu'on trouve que dans les mers du Pacifique, hein, les hauts fonds. On ne trouve pas par là, hein, de toute façon, ces poissons-là. Et on est resté un petit peu à regarder, à jouer un petit peu avec ces requins. Et comme ils ont plus peur de nous que nous, on avait peur d'eux, c'est eux qui se sont barrés, ils se sont allés se planquer avec le troisième qui était sous la patate de corail, et ils se sont planqués là. Ensuite, on est parti, on a fait notre plongée. Et c'est une plongée qui est très belle, qui était sur ce plateau là, c'était bizarre, il y avait énormément de bénitiers, des gros bénitiers. Et c'est bizarre, c'est la première fois que j'en voyais autant d'habitude, on en voit un, deux, comme ça, clairsemé de temps en temps. Et là, c'était vraiment plein, plein, plein de bénitiers. Et c'est très, très joli parce que quand ils s'ouvrent, ils sont de différentes couleurs, ils sont pas tous de la même couleur. Les lèvres, il y en a qui sont bleu turquoise, des rouges, des roses. C'est vraiment très, très coloré et il y en a pratiquement pas de la même couleur. C'est bizarre, hein? Moi, je pensais que c'était comme bien souvent quand c'est la même famille, la même espèce, ils se ressemblent, ils sont tous pareils. Eh ben non. Au niveau de la couleur, il n'y en a pas un qui a la même couleur. C'est assez bizarre, j'ai été surpris d'ailleurs. Et j'ai pas eu l'explication pourquoi, c'est comme ça, et personne n'a su me dire pourquoi ils étaient différents. Mais on peut prendre un bénitier et on sait que c'est pas du tout le même que l'autre, au niveau de la couleur. Il n'y a que la coquille qui est pareille. À l'intérieur est tout à fait différente, c'est bizarre. Donc là, bon, on a fait des très très belles plongées. Et dans cette croisière, bon, il y avait pas, bon, c'est vrai qu'il y avait une ambiance un peu exceptionnelle parce que, comme je l'ai dit au départ, donc c'est des musulmans. Bon, en plus, on était tombé à l'époque du Ramadan, donc d'abord c'était interdit de boire d'alcool, de boire, donc c'était assez strict. Et sur le bateau, c'est tous des Égyptiens le capitaine c'est un Égyptien, les mécaniciens c'était tous des Égyptiens. Il y avait que les moniteurs, enfin ils étaient trois moniteurs donc pour encadrer donc les gens qui avaient besoin d'être encadrés, et eux étaient donc il y avait un Égyptien et deux Français, et il y avait qu'eux qui parlaient pratiquement le français, les autres ils parlaient qu'Égyptien. Et donc ils voulaient pas qu'on boive d'alcool, en plus de ça, bon, en pleine époque du Ramadan, il est hors de question de boire de l'alcool. Alors, chaque fois qu'on voulait boire l'apéro ou ça, parce que bon, en plongée, on a l'habitude de se réchauffer après une plongée. On n'aime pas, on a froid, on est comme on plonge et après il faut qu'on se réchauffe. Donc, c'est vrai qu'on aime bien boire un petit coup après une plongée. Donc, on avait trouvé un truc, c'est que quand on voulait se retrouver dans une chambre, On disait qu'on allait faire le débriefing dans la chambre, enfin dans les cabines, puisque c'est des petites cabines. Chaque fois on disait débriefing. Alors dans la cabine d'un tel, d'un tel. Débriefing, c'est expliquer comment s'est passée la plongée, parce que bon, faut dire que je suis moniteur plongée, en général, bon, ceux que j'emmenais, il fallait les encadrer, leur expliquer un petit peu les paramètres de la plongée, et puis enfin discuter un petit peu sur les problèmes de plongée, parce que la plongée c'est quand même un sport qui est assez délicat, hein, on peut pas faire ça n'importe comment, et très souvent avant et après la plongée, on discute de la plongée, on voit ce qui a été, ce qui a été, ça sert un petit peu de point de repère pour les plongées suivantes. Hein. Bon, le débriefing, c'est ça, c'est expliquer ce qui a eu, ce qui était, ce qui n'a pas été dans la plongée au cours de la plongée, techniquement, disons, en dehors du problème de se raconter ce qu'on a vu, les poissons et ça, techniquement, il faut toujours parler de ce qui s'est passé. Mais surtout parler des paramètres de plongée pour la plongée d'après, pour savoir si on peut redescendre profond, s'il faut qu'on reste à mi-profondeur, enfin, il y a des choses qu'on oublie de faire. Donc, le problème, c'est que des débriefings, on en faisait n'importe quand. Parce que le vrai débriefing, on le faisait rapidement en 5 minutes, et après des débriefings, on en faisait 3-4 par jour, mais c'était plutôt pour se retrouver dans les pioles, enfin dans les cabines, et puis siffler les bouteilles qu'on avait ramenées. Et bon, l'ambiance était pas mal parce que ça se terminait il y a un soir, ça s'est terminé un petit peu en délire, on était tous bourrés comme des coins. Il y a même un qui a terminé à poil au milieu de la cabine en train de danser. Il était complètement. Il y a Dédé, lui, dès qu'il boit deux canons, il dort comme un loir. Alors lui, c'est bien parce que si on veut se débarrasser de lui un soir, c'est pas un problème. On lui fait boire deux verres de whisky et après il se fout au fond dans un coin, il s'assoit, il s'endort et jusqu'au lendemain matin, ça, on est tranquille. Alain, lui, il est complètement fou. Il fait n'importe quoi. Avec sa femme Christine, d'ailleurs, qui était dans le même état que lui, qui était bien chaude. Avec Barbara, qui s'inquiétait de voir ses parents dans un tel état, qui commençait à dire, mais qu'est-ce que c'est que ses parents? Le père complètement bourré, qui commençait à se déshabiller, à se foutre à poil au milieu de la cabine. La mère, qui était avachie au fond d'une couchette, complètement amorphe aussi. Et Gérard qui nous racontait ses exploits, c'est là où on a appris des choses sur lui qui est bon, un petit peu bizarre. On a appris qu'il avait des mœurs un peu bizarres. Hein. Apparemment, il connaît toutes les boîtes de Lyon, mais surtout les boîtes échangistes. Alors bon, du coup, on a décidé qu'on éviterait de le ramener avec nous aux prochaines sorties. Francine qui était outrée parce que elle qui est toujours très pudique tout ça donc elle avait pas l'air très mais enfin comme elle était bien chaude aussi qu'elle avait bu des canons aussi ça passait et moi sérieux comme tout j'étais complètement bourré mais comme j'ai l'habitude de faire ce genre de sortie je supportais un peu plus. Enfin, faut dire, on s'est quand même bu en 8 jours. Enfin, il y avait 6 jours à bord du bateau. On a quand même éclusé 4 bouteilles de whisky, une bouteille de rhum blanc en faisant les petits ponches. Non, ça va, ça s'est bien passé. Les débriefings étaient très animés et très actifs. C'était bien sympa. Voilà.